Bon, et eh bien, si on suit un petit peu l'actualité du moment, on peut pas dire que 2026 soit une très bonne année pour les milléniaux.
Tu aimes les films d'horreur?
Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer?
Regarde ce que tu m'as fait.
Red Rum! Oh, Red Rum!
Attention, ils viennent te chercher, Barbara.
Déguster son foie avec des fèves au beurre.
Regardez-moi ça, ils ont jamais vu le sang ou quoi? On dirait du ketchup, ça craint.
Salut les cinéphiles, les fans de films d'horreur et surtout des films d'horreur des années 90. Pour ce nouvel épisode de Souviens-toi du film dernier, on va parler d'un film des années 90.
Et oui, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est pour les milléniaux hein, quand même, parce que le film et puis les acteurs qui ont participé, qui auraient pu y participer, eh ben, je suis sûre que vous les connaissez tous, vous avez au moins vu une des œuvres dans lesquelles ils sont. Et on va parler de Urban Legend, ce film un peu oublié en fait. Moi, il fait partie, et oui, encore... Je suis une vieille milléniale, j'ai l'impression. Je l'ai vu en VHS, ce film aussi encore. C'était un film emprunté à la vidéothèque et du coup, il fait partie de ces films nostalgiques. Il n'est pas parfait pour moi. En le revoyant, je savais qu'il n'est pas parfait mais par rapport aux autres films, par rapport à rien que Scream hein, qui est sorti avant. Et puis, Souviens-toi, l'été dernier, où on avait fait deux épisodes. Mais il y a cette petite part de nostalgie, ce petit côté fun à le revoir quand même. Je sais pas ce que toi t'en penses, Yann.
Disons que pour ma part, je l'ai pas, comme d'habitude, découvert aussi tôt que toi, mais je l'avais vu, je me souviens plus très bien, je crois qu'il y a quand même un certain temps de cela. Mais ce que je trouvais surtout important, c'était de le redécouvrir d'une part, parce que des films comme ça, des slashers typiquement années 90 avec cette ambiance que je ne saurais trop décrire, cette image en fait, l'ambiance, enfin bref, on n'en a pas énormément en fait des films comme ça et donc ça fait toujours du bien de se refaire, de s'en refaire un parce qu'ils sont pas si mauvais que ça finalement.
Puis il y a des nouvelles technologies qui n'existent pas encore et j'aime bien cet aspect-là. Il n'y a pas de portable, il y a des beepers.
Oui, c'est vrai que ça peut complexifier également, ça se joue dans l'histoire, le scénario quand même, un objet moderne ou un objet non moderne, ça influence mine de rien grandement le scénario.
Et je voulais juste parler de la scène quand Sydney essaye d'appeler la police avec son PC, dans Scream.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, c'est pas pour rien que j'ai fait un peu cette petite intro, c'est que on est quand même dans l'actualité, directement et indirectement. Le réalisateur de ce film, il est mort, en fait, la semaine dernière. Il est décédé la semaine dernière, Jamie Blanks. Étrangement, personne n'en a parlé. Enfin, en tout cas, je sais plus comment j'ai appris ça, mais disons que il n'y a pas eu la même couverture, on va dire, médiatique que le Texas Walker Rangers. Là, mince, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle là le... Pourquoi j'ai oublié son nom, bordel. Il y a eu lui, et puis il y a eu aussi, il n'y a pas longtemps, au moment où on enregistre cette vidéo, il y a peut-être ce podcast. Il y a 2-3 jours, l'acteur de Buffy.
Oui, Nicholas Brendon, l'acteur de Alex ou Xander dans la VO. Ça m'a fait toujours rire qu'en français, c'était Alex, on a pris le début. Et en anglais, la version US, c'était Xander, le surnom. Et en allemand aussi, c'était Xander. Et il s'appelait pas Alex. Donc quand j'avais vu Buffy en français, je me disais, pourquoi il s'appelle Alex et Xander? C'est pas Alex pour moi. En bref, il y avait... Et puis évidemment, le grand drame du début de l'année, hein, James Van Der Beek, quoi. James Van Der Beek qui nous a quittés, mais je m'en doutais un peu parce que j'avais vu dans l'actualité qu'il était très malade et que ça, Bah, il était vraiment pas en forme, ça a que empiré avec les mois. Et du coup, c'est en lien avec ça finalement, parce qu'il y a la co-star de Dawson's Creek, Joshua Jackson, qui a joué dans Urban Legend. Un petit rôle, mais il est dans le film.
Ouais, mais c'était ça le lien secondaire. Et justement, on va parler de ce caméo quand même. Enfin, cette blague du réalisateur d'Anthologie, hein, cette scène où il met l'autoradio.
Oui, il vient chercher le personnage principal, Nathalie, si je me souviens bien, c'était Nathalie. Et pour l'emmener quelque part, enfin, il veut surtout la bégoter dans la voiture. Et sa voiture, elle démarre pas. Et du coup, il y a après, elle démarre. Et ça, tu vois, ça, c'est ce truc aussi de millénial. Tu vois, t'as laissé la radio allumée, en fait. Enfin, je crois que ça, c'est encore avec les voitures, mais il y a ce côté ancien. T'as le radio cassette qui se lance, en fait. Et du coup, il y avait le générique de Dawson, quoi. La chanson I Don't Want to Wait. Cette chanson. Culte, hein, le générique.
Ouais, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout et on était presque là à la limite du Scary Movie ou de la parodie quoi.
Et j'avais vraiment complètement oublié cette référence parce que il y en avait déjà une dans Scary Movie, comme tu dis justement, où James Van Der Beek a fait l'apparition. Il rentre par la fenêtre de Cindy, il dit: Ah, je me suis trompé de studio. Et quand il monte la fenêtre comme Cathy Holmes le faisait toujours, il y a la bande son aussi. Et puis il y a aussi dans le film culte de Jay and Silent Bob, où il fait son apparition aussi parce qu'ils sont au studio en fait. Je sais plus si c'était Studio Warner Bros. Ou Universal, je sais plus. Mais ils se retrouvent sur le plateau de tournage de Dawson dans la chambre. Et du coup, James Van Der Beek incarne. Dawson, du coup, ça fait un double caméo. Et les deux là, ils étaient déjà géniaux, ces deux apparitions. Et là, c'était vraiment rigolo. Je me suis dit: Ah, c'est pas possible, il y a le générique de Dawson. Excellent, quoi.
Et c'est tout est lié. Là, c'est le moment où je vais faire une pirouette d'arguments, un argumentaire un peu pirouette. Parce qu'on parlait de Scary Movie. Ce qui m'est pensé que Scary Movie, c'est le titre original à la base en fait du projet de Scream. Et justement, on n'est plus très loin de Scream parce que Jamie Blanks, avant de réaliser Urban Legend, il y a eu quand même un parcours et quelques petites années croches. Annie Croche, c'est comme ça qu'on dit. Et bref, et du coup, il devait réaliser, enfin, il voulait réaliser le projet Scream. Et finalement, du coup, Wes Craven lui est passé dessus. Lui est passé dessus quand même. Il essaye du coup ensuite de se raccrocher au projet qui était en cours de Souviens-toi l'été dernier. Donc Kevin Williamson à l'époque avait déjà écrit le scénario et pour tenter sa chance quoi, il avait fait un faux trailer en fait avec des petits moyens, je crois de l'ordre de 3 000 $ à peu près. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Jim Gillespie, du coup, qui a eu Gillespie, qui a eu du coup le projet. Mais c'est grâce du coup au trailer, au faux trailer, qu'il a pu réaliser Urban Legend, qu'il a décroché le projet, quoi. C'est quand même énorme le parcours, sachant que Urban Legend, il a été critiqué pour être pour surfer sur la vibes des Scream et des Souviens-toi les derniers, mais finalement, quand on voit un peu la réal et la manière dont il a mis quand même tout son cœur là-dedans, parce que on sent que les meurtres sont quand même bien mis en scène. Enfin voilà, il y a quelque chose de particulier, je trouve, qui se rapproche plus ou moins de Scream, même si c'est pas de la, c'est pas, il y a pas cette même intensité, parce que Scream, il y a quand même ce tueur masqué. Enfin, il y a un charisme en fait derrière. Mais finalement, il a juste voulu faire ce qu'il a toujours voulu faire à la base. Donc, on va pas pouvoir lui reprocher ça, quoi. Il s'est fait plaisir. Il a fait ce qu'il n'a pas pu faire, quoi.
Et en parlant du costume du tueur, il a juste un anorak et on voit pas son visage. Et là, le truc qui est vraiment drôle, c'est parce qu'à la base, l'histoire devait se dérouler en hiver, en fait. Parce que ça se passe dans une. La fac, elle est dans un coin montagneux et Il y a comme un sort de chalet. Enfin, ça devait, il devait être, les acteurs devaient porter des tenues hivernales. Il devait y avoir de la neige. Sauf que le tournage, ben, il a été décalé. Ben, c'était pas l'hiver quand ils ont tourné, c'était l'été. Ils se sont dit, ça va coûter trop cher, ça va être trop chiant. On va pas faire porter des tenues d'hiver aux acteurs, foutre de la fausse neige tout le temps. Mais comme l'idée que le tueur il soit masqué avec l'anorak, avec avec sa capuche, avec la fourrure quoi autour là, bah, ils ont gardé ça du coup. Mais ça, je pense, comme tu disais, c'est un des points faibles en fait. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il a un anorak, le tueur? J'avais pas calé ça à l'époque, mais là en le revoyant, je me suis dit, pourquoi? Et du coup, ça me fait penser à The Thing, mais c'est même pas un hommage à The Thing en fait, parce que quand j'ai lu que c'était juste ça en fait la raison. Parce que ça devait être en hiver et il avait un anorak en fait.
Ouais, c'est ouais, le scénariste quoi, Silvio Horta, qui d'ailleurs a participé à. Et c'est ouf, hein, c'est quand même sa participation, le projet le plus. Qu'on retient le plus de lui. C'est même pas un film d'horreur, c'est même pas une série d'horreur, c'est Ugly Betty. Une telenovela. Bon, ben voilà quoi. Mais le scénario de toute façon, ok, il a foiré son tueur, mais pouvoir insérer dans son scénario, essayer de trouver un point logique qui va relier toutes les légendes urbaines, je trouve que c'était quand même un bel essai. Et puis du coup, là on est un peu comme dans Scary Movie, on essaye de trouver les références. Là il faut trouver les références de Urban Legends, et je pense que le film est peut-être plus apprécié pour les amateurs de légendes urbaines. Et moi personnellement, qui n'en connaissais pas assez, j'ai pas vraiment tout capté, mais c'est pas grave, ça se laissait quand même regarder. On a toujours ces personnages de fac, c'est ce schéma un peu classique de bande de potes, ce mec un peu chelou, on se dit est-ce que ça serait pas lui le tueur, parce qu'il est quand même un peu bizarre, et finalement non, c'est juste un acteur qui joue mal, Jared Leto, hein, tu vois.
Oui, Jared Leto qui veut plus du tout parler de ce projet, il refuse d'en dire un seul mot. Mais oui, c'est vrai, j'avais même complètement oublié qu'il était dans le film en fait. Ça m'avait complètement échappé quand Yann a dit bah, on va revoir Urban Legend, et du coup je me suis dit bon, je vais regarder le casting. Je me souviens qu'il y avait Joshua Jackson dedans, forcément, hein, grande fan de Dawson, je savais qu'il était dedans. Je me souvenais d'une autre actrice, je sais plus son nom, mais c'est celle avec les cheveux bouclés qui avait joué dans Beverly Hills, dans plusieurs trucs, je sais plus son nom maintenant. Rebecca Gayheart. Wow, j'arrive vraiment pas à retenir. Et oui, ce que j'avais revu, c'était qu'elle avait joué dans Job Wakers. Tu te souviens de ce film, Yann, Job Wakers?
Un autre film de tueur qui se passe dans une fac ou dans un lycée, je crois, c'est ça?
Non, c'est pas. Il y a pas un tueur.
Non, c'est pas un tueur, pardon, mais il y a un meurtre en tout cas, voilà.
Oui, oui, il y a un meurtre. En fait, c'est des amis qui font une surprise à leur meilleure amie, c'est trois filles. Et la quatrième, elle a l'anniversaire tout au début du film. Il l'enlève, en fait. Parce qu'il va lui faire une surprise.
Non,
et il la met dans...
C'est un accident.
Oui, c'est un accident. Mais après, on se rend compte que ça a bien arrangé une des deux filles. Hein. Une ou deux filles, ça lui a arrangé qu'elle soit morte. Et après, elle veut cacher ça aussi. Hein. Donc, ça crée tout un truc. Il est vraiment cool ce film. Il est pas très connu. Si vous aimez les films des années 90, c'est pas un film d'horreur, mais c'est plus un thriller avec des ados au lycée. Et franchement, il est vraiment cool. Et là, rien que l'ouverture, le début, on s'attend pas du tout à ça. Enfin, la manière comme c'est mis en scène, c'est super cool. Et il y a plein d'acteurs et d'actrices connus que vous allez reconnaître, vraiment très connus de cette époque. Dont Rose McGowan, c'est ça, elle a c'est un de ses premiers rôles d'ailleurs. Rose McGowan, c'est vrai, c'est une des amies, c'est ça. Et d'ailleurs, j'avais lu son autobiographie il y a quelques années de ça, et elle était c'était très intéressant. Elle a un parcours vraiment impressionnant. Pour la parenthèse,
ouais.
Tu l'avais lu aussi. Hein.
Bah oui, on l'avait lu, c'était après le Covid. Le premier bouquin qu'on a emprunté à la médiathèque, quand ça a réouvert d'ailleurs. Et ouais, alors du coup, comme je disais, c'était quand même très malin d'avoir placé autant de références aux légendes urbaines. Alors je me demande, et ce sera à vous de nous dire dans les commentaires, est-ce que vous avez reconnu certaines légendes? Alors il y en a une qui est très facile, hein, la légende urbaine de Bloody Mary, dont ils font référence, mais alors je sais même pas pourquoi ils en font référence, c'est un peu bidon, hein, je trouve, la manière dont par contre ça a été introduit. C'est un petit peu gratuit, à moins que c'était un trailer, genre des années en avant, du troisième Urban Legend qu'ils avaient sorti, ce qu'ils ont fait sur Bloody Mary. Ils ont spécialisé là-dessus, en fait, le troisième.
Non, moi je pense que c'était dans la continuité de la scène parce que ils sont tous ensemble assis au coin de la cheminée un peu en mode un peu cosy et il y en a un qui raconte une légende urbaine et après on suppose qu'ils ont passé la soirée à s'en raconter en fait et forcément ils ont parlé de Bloody Mary et après il y a les deux filles qui rentrent dans leur dortoir et c'est là que ben elles rigolent machin est-ce que c'est vrai c'est pas vrai et après ben elles se mettent au défi de dire sept fois Bloody Mary.
C'était cinq fois.
Cinq fois Bloody Mary, je sais jamais combien de fois. Beetlejuice, c'est trois fois, ouais. Ça je sais. Bloody Mary, ouais, je sais jamais, j'oublie toujours. Je crois que c'est cinq fois. C'était dans un épisode de Supernatural aussi, je me souviens, qui était vraiment cool.
En vrai, c'est trois fois aussi un hein, Bloody Mary. Et
ah,
je...
aussi trois fois, tu
ouais,
vois.
Oui, en fait, je crois que cinq fois, c'est pour c'est invoquer Candyman.
Candyman, hein, c'est Candyman, cinq fois peut-être, hein. À vérifier. Mais oui, je pense que c'était juste pour ça. Parce que moi, je me souviens que c'était bien Candyman 5 fois, oui. Parce que moi, je me souviens que à l'époque, quand j'avais moins de, je sais pas, 9-10 ans avec mes cousines, on aimait bien se raconter des histoires d'horreur, des légendes urbaines. Enfin non, on n'en connaissait pas trop, mais c'était il y avait une ou deux qui étaient un peu plus âgées que nous et qui en connaissaient déjà. Et après, on en inventait aussi. Alors, on se mettait... je me souviens, il y avait un lit superposé et on mettait des couvertures tout autour. C'était le lit superposé et en dessous, t'as pas de lit en fait. Mais il y avait un matelas et on mettait des couvertures pour fermer. Ça faisait une petite cabane et on était juste avec la lampe de poche. Et chacun à son tour prenait la lampe de poche et racontait, inventait une histoire d'horreur en fait. Et forcément, tu viens sur la fin. Je me souviens, on était venu sur, bah, sur le Bloody Mary où on avait dit où c'était autre chose parce qu'il doit y avoir tellement d'histoires en fait où tu répètes le nom et tu dois le faire de face à un miroir et qu'après il y a quelque chose qui se passe. Et après, bah, tu te mets au défi qui va aller dans la salle de bain dans le noir avec la lampe torche et dire cinq fois le truc. C'est juste la fin de la soirée en fait. Il y a une logique en fait du coup. Parce que c'est une légende urbaine qui est très concrète, en fait. Ouais. Quand tu as fini d'en parler, tu rentres chez toi, tu es seul. Bon, est-ce que je vais tester le truc. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça existe? J'ai peur, mais je veux quand même savoir si c'est vrai ou faux.
Mais est-ce que tu l'as fait?
Oui, je l'avais fait, mais c'est rien passé.
Ok, bah, tu sais quoi? Moi, c'est marrant. Et là que je trouve le film intéressant, c'est que j'ai jamais osé le faire. Voilà, tout simplement, j'ai pas honte de le dire. Parce qu'on sait pertinemment que c'est faux, qu'il va rien se passer. Mais il y a un truc psychologique, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quand même un micro-doute qu'il pourrait y avoir quelque chose. Et c'est justement tout l'intérêt. Et je trouvais ça, cette scène géniale, en fait, la scène du cours, en fait, du professeur, qui est d'ailleurs le professeur, quand même. C'est un personnage en lui-même de légende urbaine, limite, hein, Freddy, hein, Robert Englund, qui joue le professeur. C'était excellent, mais c'était trop bien choisi, le casting. Ah oui, d'ailleurs, juste en revenant, petite parenthèse sur le casting, on a quand même Brad Dourif qui fait une apparition au début. En fait, c'est le pompiste, le mec de la station de service qui essaye de prévenir la fille, quoi, qu'il y a le gars, il y a quelqu'un au niveau de la couchette. Ça qui est drôle, c'est que il y a aussi, il y a, en fait, c'est une vraie analyse de la psychologie, de notre psychologie, où est la peur, où est le danger, parce que finalement, la fille au début, elle a peur du gars de la station service, alors parce qu'il a une apparence chelou et bon, c'est Brad Dourif quoi. Et en fait, il voulait juste lui dire bah, que le méchant il était là, il y avait un mec dans la banquette. C'est excellent. Et du coup, voilà, il y a tout ce cours avec cette légende urbaine où si tu manges des bonbons, je sais plus comment ça s'appelle le bonbon. Pop Rocks avec un soda, voilà, bah ça va t'exploser le bide, voilà. Et ouais, et du coup là, elle doute, elle se dit et si c'est vrai, mais c'est comme et Bloody Mary, et si c'était vrai en fait, c'est comme est-ce que vous vous rappelez de la chaîne de SMS? On recevait un SMS si tu envoies pas à 10 personnes.
La petite Amélie va venir sauter en l'air.
C'était...
Elle va te croquer les orteils.
Et recevoir ça de la part d'un pote à 23h alors que...
Ouais, c'est ça. Toi, t'as tout éteint et d'un coup, la lumière du téléphone s'allume et t'as cette chaîne. Mais vite, tu l'envoies, hein. Tu te dégages ce truc.
Mais moi, j'avais pas SMS illimité à l'époque, alors du coup, j'étais une victime parfaite.
Mais c'est dégueulasse d'envoyer ces trucs quand même, franchement. Alors, oui, il y avait les trucs qui portaient malheur ou alors carrément, il y a la machin. Enfin, l'esprit de je sais pas qui, de je sais pas quelle légende qui va venir te voir. Je sais pas si c'est ce délire des chaînes, mais c'est fini. Toutes les chaînes ont été finalement brisées, mais.
Est-ce qu'il y a eu des morts?
Voilà, on est encore là, on n'a pas vu d'esprit venir nous hanter. Donc ça va pour le moment, et vous?
Mais bah en fait, ce qui est quand même passionnant, c'est que les Urban Legends, enfin les légendes urbaines, ça traverse finalement les siècles. C'est vieux, hein, c'est de la tradition, ça date de la tradition orale, quoi. À l'époque, on se racontait des histoires et après, il y a eu le biais à Internet et tout ça. Aujourd'hui, on a les creepypasta. D'ailleurs, un film de creepypasta serait énorme, un peu à cette manière-là.
D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais lu l'année dernière et j'ai revu parce que c'est des articles qui datent de l'année dernière. Il n'y a rien de nouveau qui a été écrit, tout à 9 à 10 mois. Et il y a cette rumeur d'un reboot, en fait, de Urban Legend. Elle serait basée sur des légendes urbaines d'Internet, justement. Tu vois, donc c'est ce que je me suis dit, ah, ce serait sympa de faire ça. Oui. En fait, c'est ce qui est prévu, en fait. Et je crois même avec le scénariste du premier film, en plus. J'espère qu'il va laisser tomber l'anorak, hein, cette
Non,
fois.
c'est pas possible parce qu'il est mort en fait. Il est mort en 2020.
J'ai mal lu, alors c'était autre chose. Ah non, c'était à la base, parce ils avaient prévu genre 2020, mais comme il y a eu le Covid, ils ont annulé le reboot, et après ils ont réannoncé que c'est nouveau en projet depuis 2025. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Ils n'ont pas dit que c'est en tournage ni rien. Après, parfois, c'est possible. Parfois, ils ont déjà tourné. Et après, d'un coup, pof, t'as la bande-annonce qui sort, quoi. On verra bien s'il y a quelque chose cette année. S'il n'y a vraiment plus rien cette année, je pense que c'est de nouveau mort, en fait. Si on n'a vraiment aucune image, aucune info, ni son ni image, c'est foutu. Et pour revenir sur la scène que tu disais avec les bonbons Pop Rock, c'était trop drôle que ce soit Joshua Jackson qui fait la comédie, il fait croire à tout l'auditorium de la fac qui va exploser en exagérant. Ça collait parfaitement à son personnage de Dawson, où c'est vraiment un clown, quoi. Il fait vraiment le con, surtout dans les premières saisons, les premiers épisodes. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a les cheveux blonds et il a les cheveux décolorés parce que c'est Il n'est pas comme ça d'habitude. Et c'est parce qu'en fait, il a tourné, juste avant de tourner Urban Legend, il a tourné dans Sexe Intention. Il avait un petit rôle et son personnage avait les cheveux décolorés. Et du coup, il les a gardés décolorés pour le film-là, au cas où il y avait des reshoots à faire, en fait. C'était que pour ça, en fait. Je trouve ça trop drôle. Mais c'est vrai qu'il avait enchaîné plusieurs rôles à cette époque-là. Il y avait aussi un autre film, The Skulls, avec une sorte de secte dans une fraternité d'étudiants à Yale. Et le film a été sympa. Il a eu deux suites qui, pareil, n'ont pas trop marché. Et pareil, ça fait partie de ces petites sagas comme Urban Legend qui sont pas très connues, en fait.
The Skull, se dire le, ouais, c'est quand même réalisé par Rob Cohen. Je veux dire, c'est quand même le mec de Fast and Furious, quoi.
Et justement, il y a Paul Walker qui joue dans The Skulls. Il joue un des personnages. Et The Skulls, c'est de 2000. Et Fast and Furious, 2001. Donc, il a gardé Paul Walker, en fait. C'est là qu'il l'a découvert, en fait.
C'est un épisode millénial. Hein, là, on se replonge vraiment dans notre.
Et tu sais quoi, j'ai encore un lien qui m'est venu en tête, encore plus fou. Donc, tu vois, là, Paul Walker avait joué avec Joshua Jackson dans The Skulls. Hein. Sauf que encore avant ça, donc dans les années 90, Paul Walker a joué dans un drame film d'ado au lycée, ça se passe, c'est War City Blues. C'est sur du football américain. Il est chouette ce film aussi, je l'aimais bien. Et là, Paul Walker joue dedans aussi, il joue un footballeur et il joue avec James Van Der Beek. Tu vois, la boucle est bouclée, c'est trop drôle.
Il n'y avait pas un délire avec, pour revenir un peu sur les bonbons, comme quoi l'actrice elle a dû en manger énormément, qu'elle avait fini par être écœurée par les pop rock. Parce que la scène, ils ont dû la rejouer, mais elle mange vraiment en fait les bonbons en fait dans la scène.
C'est Joshua Jackson qui les mange juste. Mais c'était l'actrice Gayheart. Rebecca Gayheart, elle en avait mangé beaucoup sur le plateau parce qu'il y en avait sûrement plein et ça l'avait écœuré, elle en avait mangé beaucoup. Et pour écœurement, il y a encore un autre truc, mais on en parlera plus tard. Il y a aussi un acteur qui a été dégoûté par un truc.
Voilà, t'as qu'à dire maintenant.
Hein. Oui, c'était la cigarette. C'est une actrice qui fumait et dans les scènes qu'elle jouait, elle jouait quelqu'un qui fume. Elle s'est dit, oh bah super, je vais pouvoir fumer autant que je veux. Eh bien, quand tu tournes des scènes où tu fumes, tu vas fumer beaucoup. Et du coup, elle devait tellement fumer de clope en fait pour toutes les prises. Ça l'a dégoûté de la clope et elle a arrêté. Et c'est l'actrice qui interprète Tosh, c'est la gothique, c'est celle qui partage la chambre, la coloc avec le personnage principal dont j'ai oublié le nom. Mais l'actrice, c'est Danielle Harris. Et Danielle Harris, elle a une grosse carrière hein, quand même. Elle a commencé très jeune et c'était la petite Jamie dans Halloween, la nièce de Michael Myers dans Halloween 4 et 5. Et oui, la petite Jamie déguisée en clown, rappelez-vous, c'est elle.
Que depuis, elle a quand même bien grandi. Hein. On se souvient tous de cette scène où la coloc rentre dans la chambre et découvre la petite Jamie qui a grandi faire des trucs d'adulte. Voilà.
Et du coup, elle avait repris son rôle dans le Halloween de Rob Zombie. Et ça, j'avais complètement oublié. Et franchement, il faudrait qu'on les remate, les deux. Là. Le Halloween de les deux adaptations de Rob Zombie. Danielle Harris, oui, j'avais complètement oublié qu'elle était dedans aussi, c'est drôle, enfin vraiment longue carrière. Et du coup, pour revenir sur la scène et revenir aux légendes urbaines, le prof, il a un livre dans cette scène, et c'est la légende urbaine de l'autostoppeuse, l'autostoppeur, et c'est une des... C'est la base, en fait, des légendes urbaines, c'est la toute première légende urbaine qui existe dans le monde entier, en fait. Il y a des histoires partout, en fait. C'est la fameuse autostoppeuse que vous croisez en roulant sur une route où il n'y a personne. Et elle est souvent vêtue de blanc. Ah, la dame blanche, oui, c'est bien elle. Elle monte votre véhicule, elle discute un peu, et à un moment, vous roulez et tout, et après, vous regardez, paf, elle n'est plus là. C'est ça. C'est ça, l'autostoppeuse. Et ça date d'il y a très longtemps. Il y a des écrits... de l'époque de la Bible, enfin, déjà, c'était sur un voyage de Jérusalem à Gaza, j'avais lu quelque chose, il y avait un récit où on racontait qu'il y avait quelqu'un qui a pris une personne en stop et qui après, a disparu. Et il y en a vraiment plein des histoires comme ça, et puis vous avez pu le voir dans d'autres films. Moi, je me souviens qu'il y avait un épisode de Supernatural aussi, qui parlait de l'autostoppeuse. Et c'était une dame blanche. Je crois que c'est le troisième ou quatrième épisode. C'est vraiment un des tout premiers épisodes de la première saison.
Ouais. Moi, j'avais entendu parler de cette histoire en bien. Enfin, je veux dire, contrairement aux autres légendes urbaines où il y a toujours quelque chose de mauvais derrière. En tout cas, dans la version française de la dame blanche, elle est là pour sauver les gens, les personnes, les prévenir d'un danger en fait. D'ailleurs, je me souvenais qu'il y avait une histoire qui s'était passée dans les années 80 à Palavas-les-Flots dans le sud de la France où il y avait quatre jeunes qui ont pris en stop une femme qui avait la cinquantaine et qui a disparu après les avoir prévenus dans un, je crois que c'était dans un virage en fait, ils s'engageaient dans un virage dangereux. Et voilà, du coup, c'est complètement. On n'est plus du tout sur la légende urbaine de la fille dont le mec part pisser et puis d'un coup il revient pas et puis il entend le grattement sur le toit et qui est d'ailleurs la scène, mais qui est énorme. Franchement, je trouve. Ouais, c'est l'une des meilleures scènes où, sans spoiler, bref, je vais spoiler, allez, le pote de bah, Damon, ah oui, ouais, se fait pendre en fait à l'arbre et ses pieds. Et c'est enfin, du coup, c'est la fille qui le tue parce que la corde est rattachée au. Et quand on connaît, après, quand on réfléchit, mais et c'est là tout. Il faut pas réfléchir trop loin. Il se fait pareil, moi je trouve, pour Scream. Pour n'importe quel film de tueur, quand tu connais l'identité du tueur et si tu remontes à rebours tout ce qui s'est passé, là tu te demandes mais comment la personne a eu le temps de mettre un costume, de faire ça, en des temps qui tiennent de quelques secondes. Là par exemple, quand on connaît l'identité du tueur, enfin en l'occurrence de la tueuse dans Urban Legends, elle a eu la force et l'esprit de. D'attacher la corde à la boule là qu'il y a derrière la voiture, enfin, c'est quand même démentiel quoi le meurtre quand ça s'est déroulé quoi.
Oui, parce que c'est une jeune fille et un mec quand même assez grand, costaud, quoi. Oui, c'est vrai. Mais cette légende urbaine, je la connaissais, mais il y a une variante aussi. En fait, où le mec, il va aux toilettes, où il va voir parce qu'il y a un bruit bizarre et il revient pas. Et après, d'un coup, il y a des petits coups du bruit sur le toit. Et il y a aussi. Et après, parfois, il y a aussi le truc où tu entends un bruit des gouttes qui tombent, en fait. Mais je sais plus comment on dirait ça en français. Hein. Trips, trips, flop, flop.
Ouais. Clip-clap.
Clip, flip-flap. Clip-flap. Il y en a une avec une fille, je sais pas si vous la connaissez, où c'est. Et souvent, dans les légendes urbaines, on raconte une amie connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Il faut toujours relier, quand tu racontes une légende urbaine, faut relier ça au présent et à une personne que tu connais, à ton cercle proche, en fait. Tu peux dire ah, une camarade de classe, elle a une cousine, et à sa sœur, il lui est arrivé ça. Voilà, même si c'est méga éloigné, déjà ça pose le truc, c'était là où.
Oui, c'est ça, en fait, il y a toute une base, en fait, tout un processus, et c'est comme ça que naissent les légendes urbaines. C'est bien, il y a toute une étude, en fait, là-dessus, c'est fascinant, en fait, quand on s'y intéresse. D'ailleurs, bah, c'est revenu à la mode avec les creepypasta, et puis avec toutes ces. J'ai vu beaucoup sur YouTube maintenant, c'est c'est comment les icebergs des pires trucs et voilà, il y a plein de vidéos d'horreur et je pense notamment à celui qu'on aime bien des fois regarder qui fait des vidéos qui font 5 heures des fois. Ouais, Feldup, c'est ça avec ses findings, c'est super intéressant. Et pour revenir un petit peu aussi au scénario, parce que en fait finalement, c'est vrai que ce film, bon, ça reste un film d'horreur classique qui se laisse regarder et dont on peut prendre beaucoup de plaisir. Quand même, voilà, on s'ennuie pas. Et puis c'est une bonne rythmique, mais au-delà de ça, c'est tout l'aspect ce qu'il y a autour du film qui est quand même hallucinant, tous les liens qu'il peut y avoir. Et il y a une autre légende urbaine qui est subtilement évoquée, et si j'avais pas fait de recherche, en fait, je l'aurais même pas calé. Il y a une légende qui dit que dans la musique Love Roller Coaster, c'est un groupe de funk, en fait, musique d'ailleurs que je vous invite à écouter, et de toute façon, si vous avez vu Final Destination Final 3, bah, c'est la musique qui annonce l'arrivée de la mort dans le roller coaster, justement. Il y a encore un lien que c'est la mort. Hein. Voilà, on peut trouver des liens partout. Bref, on entendrait vraiment le cri d'une personne qui se fait assassiner. Il y aurait eu un meurtre qui serait produit dans le studio pendant qu'ils enregistraient la chanson ou à proximité du studio et ce son-là aurait été enregistré. Et donc du coup dans le film ils l'ont illustré lors de l'enregistrement de l'émission de radio étudiante au moment où le tueur arrive et tue du coup les protagonistes de la radio et l'enregistrement continue et est diffusé pendant la fête. qui rend hommage d'ailleurs à la légende urbaine de la fac. Voilà, tout est relié. Est-ce que y a une scène autre que la pendaison qui t'a marqué ou par rapport au film, si on reste sur la réalisation de base, quoi?
Ben, j'ai beaucoup aimé la scène avec la coloc, avec la gothique, quand le personnage principal, comment il s'appelle, tu peux me rappeler le nom, parce que à chaque fois qu'elle rentre, enfin, on le voit qu'une fois, mais on a compris que quand elle retourne dans sa chambre, elle doit surtout pas allumer la lumière parce que sa coloc, elle est en train de faire des trucs avec des mecs dans son lit, et là, elle fait l'erreur d'allumer la lumière, elle voit ça. Et après, elle s'excuse et elle va au lit. C'est vraiment trop bizarre. Et après, c'est un peu plus tard, c'est le soir d'après, je dirais, où d'abord, on voit un peu plus le Tosh, donc la coloc gothique, qui est en train de. Elle parle sur Internet avec un mec apparemment du campus. Elle veut donner rendez-vous. Enfin, on a l'impression qu'elle donne rendez-vous tout le temps à des mecs, en fait. Et le mec, elle demande l'adresse, et il dit, ah bah, je suis dans ta chambre déjà. Et en fait, c'est le tueur finalement. Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que après, il y a la lumière, elle est éteinte, elle est dans le noir. Et du coup, Nathalie, voilà, ça, Nathalie revient. Et elle n'allume pas la lumière. Elle entend des bruits, elle entend des gémissements juste en fait. Et c'est Tosh qui se débat, le tueur, il est en train de l'étrangler. Donc elle entend juste. Elle entend s'étrangler et gémir. Donc elle croit qu'elle est en train
De jouir.
de jouir, de coucher avec un mec de nouveau. Et du coup elle fait désolée, j'allume pas la lumière, désolée. Et elle va se coucher et elle met son casque et elle écoute. Elle a un disque player, je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, c'est ça,
Le
voilà,
lecteur
CD.
CD à pile.
Mais c'est parce qu'elle fait des trucs de SM de base.
Oui.
Donc, voilà. Et on est quand même dans ce schéma où toute personne qui couche avec une autre se fait tuer, hein, quand même.
Oui,
Comme dit analysé dans Scream, la base en fait, on est encore dans ce schéma où.
Dans Halloween aussi, hein.
Ouais, c'est
Mais
ça.
oui, le couple qui se fait massacrer
Ou la
dans
sœur
Halloween.
nue, enfin, la nudité est punie, quoi.
Oui,
On est
ouais, c'est
quelque
ça.
chose de très
Mais
puritain, quoi.
c'est ça. Et du coup, après, le lendemain, elle se réveille et elle enlève la couette, elle voit sa coloc. Et au-dessus du mur où elle dort, il y a écrit Tu ne regrettes pas de ne pas avoir allumé la lumière ou un truc du genre comme ça, en fait. Et c'était méga glauque. Et là, je trouve qu'il y avait vraiment. Là, il n'y avait rien de drôle. J'ai trouvé ça vraiment tragique, en fait. Parce qu'elle se sentait vraiment coupable, du coup, de ne pas avoir aidé sa coloc. Et c'est le côté tragique qu'il y a dans Scream, en fait. À l'ouverture du film que j'aime beaucoup. Pour moi, Scream, c'est pas que un film d'horreur, c'est vraiment un vrai drame, en fait. Parce que les morts sont pas. La mort est prise au sérieux, je trouve, dans Scream par rapport à d'autres films où c'est. On tue les gens, allez, on passe aux autres. Ou alors, c'est en mode. Vraiment juste slasher drôle. Là, j'en ai pas. Enfin, pas drôle, mais souviens-toi, été dernier aussi, il y a un côté vraiment tragique. Quand le personnage de Sarah Michelle Gellar se fait tuer, par exemple, il y a vraiment un côté tragique que dans Urban Legend, il y a que. À ce moment-là, en fait, on n'est pas triste pour la coloc parce qu'on la connaît pas du tout, mais il y a ce côté où, ouais, si ça m'arriverait à moi, j'aimerais pas envie que ça m'arrive, me sentir coupable que quelqu'un était en détresse et j'ai rien fait, en fait, parce que j'ai mal analysé la situation. Et ça, le côté-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je crois pas avoir vu ça dans d'autres films.
Souviens-toi l'été dernier en fait.
Non, je veux dire qu'elle aurait pu l'aider, mais qu'elle l'a pas fait. Parce qu'elle savait pas. Parce qu'elle
Ah
a
oui,
mal
c'est peut-être.
analysé la
Ouais.
situation dans le sens-là, pas
Ouais.
le côté tragique
Tragique,
en
ouais.
fait, oui.
Mais oui, non, c'est vrai. Cette tragédie, en fait, on en avait déjà parlé, je sais plus dans quel épisode, mais faire vraiment passer la mort comme une conséquence, la mort d'un personnage qui a des conséquences, ça renforce le film. Et c'est pour ça qu'il ne devrait pas être passé non plus inaperçu, même si on peut tout à fait oublier le troisième film. D'ailleurs, c'est le premier film que j'ai vu de la série. J'ai commencé par le 3, en fait. J'avais vu parce que c'était un DVD qui coûtait que 1 euro. Un DVD à 1 euro en neuf, que je l'avais pris pour voir. Et qui était nul, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tant ce jeu d'acteur de l'actrice Alicia Witt, hein, mais plutôt son doublage. J'ai tout de suite pensé à Nathalie Portman, et en fait, c'est la doubleuse de l'actrice, ben, c'est Sylvie Jacob, donc la voix de Nathalie Portman. Et je sais pas pourquoi j'étais plus porté par sa voix, mais du coup, la voix française, que le jeu d'acteur de l'actrice, ben, parce que j'aime bien en fait le doublage, quoi. Voilà, ça n'avait aucun rapport avec... Enfin, si, ça a un rapport avec le film, mais bon. Et blague à part, d'ailleurs, j'ai appris que Sylvie Jacob était actrice avant d'être doubleuse et a joué dans L'Instit. Voilà, s'il y a encore des milléniaux qui regardaient L'Instit ou qui a regardé encore bien plus tard L'Instit, parce que j'ai vu que les épisodes étaient rediffusés sur Gulli. J'étais un grand fan de L'Instit quand j'étais gosse. Voilà.
Et moi, je voulais revenir sur un thème que tu as relevé, que les personnages meurent parce que ils sont à poil, ils s'embrassent, ils couchent ensemble. Il y a un film qui est un peu dédié à ça, en fait, et qui tourne un peu ça au ridicule. Et c'est le titre original, c'est The Final Girls.
C'est
Et
Scream Girls en
en
français, je
français,
crois.
Scream Girl.
Ou Scream Queen, là.
Scream Queen, c'était une série. C'est une série qui était cool. C'est une série de Ryan qui a
Ryan
fait
Murphy?
Ryan Murphy,
Ok.
voilà.
Ah, c'est Scream. Ouais, Scream Girl. C'est, vous avez raison. Scream Girl.
Scream Girl, ouais. Mais moi, je préfère Final Girls parce que c'est dans le sens la survivante quoi des slashers. Et le film, je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Il est cool. C'est une comédie horrifique. Avec Thaïsa Farmiga, il y a Nina Dobrev aussi, tiens Nina Dobrev de Vampire Diaries, et il y a aussi Alexander Ludwig que vous connaissez si vous regardez Vikings. Moi, je me souviens qu'il est dans Hunger Games, c'est celui du District 1, le dernier à se faire tuer par Katniss. Bref, le film, ça se passe. En gros, c'est deux sœurs et après, il y a aussi un groupe d'amis. Enfin, ils se retrouvent mystérieusement piégés dans le film d'horreur de sa mère qui avait joué dans un film d'horreur. Et à chaque fois que il y a des couples qui se forment, ils se mettent à l'écart, ils s'embrassent, bah, baf, le tueur, il apparaît. Et c'est super drôle. Du coup, ils savent pas comment s'en sortir. Et vraiment, ça joue sur les stéréotypes des slashers. Et il est vraiment très drôle. J'ai envie de le revoir, on l'a vu qu'une fois et ça date. Je pense que si on le revend, on en parlera peut-être dans un épisode.
Eh bien, on dirait qu'on est encore parti loin. Décidément, on ne fera jamais de vraies critiques de films. Bon, en même temps, il n'y est pas. Voilà, c'est un. C'est pas. Je ne sais pas s'il aura encore son statut culte, mais en tout cas, oui, je pense qu'il peut avoir son statut culte, ne serait-ce que pour le paquet d'acteurs qu'il y a derrière. On rappelle quand même Robert Englund. Le casting est quand même assez ouf. Et puis, il y a également. Tara Reid qui est quand même assez connue pareil encore une actrice pour les milléniaux le crush de certains d'entre nous je parle des mecs puisqu'elle a joué quand même dans American Pie on s'en souvient pour American Pie et accessoirement dans The Big Lebowski quand même
Puis l'effet papillon et plein d'autres films. Et c'est vrai que moi, j'ai plus le côté où je me souviens dans quoi étaient les acteurs. Mais je voulais parler d'elle parce que y a toute une course-poursuite avec elle dans les escaliers et elle a fait les cascades elle-même. J'avais lu ça et j'avais trouvé ça cool. Et du coup, c'est le personnage qui bosse à la radio et du coup les gens témoignent d'expériences sexuelles un peu bizarres, exagérées, ben, des légendes aussi, hein, des légendes urbaines sur la sexualité. Et du coup ça donne des dialogues assez étranges en fait dans le film. Et ce qui est drôle c'est que le personnage, normalement c'était Sarah Michelle Gellar qui devait l'interpréter, mais elle n'avait pas le temps à cause de la série Buffy contre les vampires. Et puis comme je disais, il y avait Sex Intention qui avait été aussi récemment tournée, donc le calendrier était beaucoup trop serré. Et pour parler d'autres actrices connues, il y avait Jennifer Love Hewitt, on lui avait proposé aussi le rôle principal. donc le rôle de Nathalie, et aussi à Reese Witherspoon. Et encore une autre actrice, j'ai oublié, une autre actrice aussi connue, mais elles ont carrément... Ah oui, Melissa Joan Hart, Sabrina l'apprentie sorcière. Et toutes les trois ont refusé de jouer dans le film. Après, Jennifer Love Hewitt, bah, je comprends, parce qu'elle avait déjà joué dans... Souviens-toi, l'été dernier, et elle n'a pas envie d'entrer dans le... Ouais, je fais que la Scream Queen. Mais là, au moins, c'est la Scream Queen que d'une saga. C'est un peu plus cool, quand même. Sinon, ça te fait vraiment... Enfin, ça te fait une panoplie, c'est pas ouf pour la filmographie, peut-être. Parce que finalement, sa carrière, elle a quand même bien continué, même si c'était plus à la télé, quoi.
Mmh. Ouais, 911. Quel autre genre. Ah oui, Ghost. Mais j'ai pas vu Ghost Whisperer, en fait. Mais bon, voilà. En tout cas, que dire. Merci, en tout cas, d'avoir écouté cet épisode. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas repris le micro, et il faut dire que ça fait longtemps qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas regardé de film, hein, parce qu'on n'a pas du tout le temps clairement en ce moment. Donc on s'est quand même calé un petit créneau, puis surtout profiter d'internet, parce que pour ceux qui nous suivent que depuis cet épisode, on est en voyage en continu depuis au moins 6 mois, ce qui explique le son un petit peu nul. Voilà, on a pris un ordinateur portable, donc carte son moyen. Voilà, en tout cas, on voulait absolument revoir ce film suite à l'actualité de décès actuelle, quoi. Voilà, on n'a pas finalement, c'est quand même plus intéressant que ce que l'oubli veut nous faire croire, hein, finalement. Donc comme quoi, on va peut-être se refaire quelques pépites. On va peut-être, ce serait intéressant de redéterrer des vieux films et d'avoir un autre regard dessus, d'avoir un regard plus analytique, on va dire. Et puis se rendre compte que ce qui a été oublié ne mériterait peut-être pas d'être oublié.
Oui, oui. Mais ce que je me disais, on va peut-être essayer d'alterner entre un épisode sur un film plus ancien. Parce qu'à la base, c'était aussi ça, hein, le projet du podcast. Souviens-toi du film dernier. Un vieux film, quoi. C'est en jouant sur Souviens-toi l'été dernier. Et oui, j'ai repensé à quelques d'autres films. Après, il faut réussir à les trouver, mais parfois, on les trouve quand même encore. Et si vous avez des idées de films des années 90, 80, début 2000 aussi, enfin, ces décennies-là, des films que, ben, comme nous, vous avez découverts ados ou à 10 ans, et qui vous ont traumatisé, qu'on n'a pas encore parlé, des trucs pas trop connus, quoi, pas Scream, quoi, enfin, il y en a eu plein, quoi. Et on en fera un épisode dès qu'on aura le temps de regarder. Mais j'en ai déjà quelques-uns en tête. Et puis, on n'a pas encore vu, hein, le dernier Scream 7, parce qu'il n'y a pas de cinéma. En ce moment, on est sur un archipel, on est sur l'île de Langkawi. Il n'y a qu'un cinéma. Il vient seulement de réouvrir, parce qu'ils l'ont complètement rénové. Et il n'y a pas beaucoup de films pour le moment. Mais là, on va rejoindre un autre endroit où il y aura un cinéma. Non, mais j'espère, donc soit on va réussir à le voir, Scream 7, ou sinon il y aura, j'ai vu qu'il y a Ready or Not qui va sortir bientôt, donc lui normalement on devrait pas le rater, il y aura un cinéma dans les parages. Et puis on va pas que voir des films d'horreur au cinéma, moi j'ai hâte d'aller voir Hopper, le dernier Pixar.
Ouais, moi aussi, hein. Il va déjà rien que la bande-annonce m'a bien fait rigouler. Très drôle. Puis de toute façon, voilà, je suis un bon enfant, bon public, donc je suis jamais déçu, même si certaines fois c'est un peu craignos. Certains dessins animés sont pas ouf, mais ouais, il y a toujours quelque chose de positif à tirer, des choses un peu moyens, ce qu'on essaye de faire. Parce que ben voilà, il faut quand même pas oublier que derrière un film, il y a toute une équipe, il y a du travail, il y a une vision artistique. Tout le monde ne partage pas forcément, et que un film, ça reste quand même un objet de plaisir, de détente, et ça nous fait du bien. Et ça nous ferait d'ailleurs du bien si vous mettez 5 étoiles à cet épisode. Non, sérieusement, aidez-nous vraiment à remonter dans le classement. Voilà, vraiment, si vous aimez ce podcast nous, et que vous n'avez pas encore noté, n'oubliez pas de le faire. Et puis voilà, puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux films d'horreur, quoi.
Oui, on vous dit à bientôt pour de nouveaux films d'horreur.